Alors, cette conférence, en fait, qu'est-ce que la République? Qu'est-ce que la République sociale? Bon, cette conférence, comme certaines autres que j'ai faites ici, font partie, en fait, d'un cycle de 26 conférences. Et cette conférence particulièrement est en général couplée en deux séances. D'une part, une séance sur la crise économique, crise financière et crise de la dette publique. Et puis, la séance qui vient après, c'est devant les difficultés, devant les difficultés prévisibles, c'est quel autre modèle serait possible. Et puis, on arrive effectivement sur cette conférence sur qu'est-ce que la République et sur le modèle, en fait, de la République sociale. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la réflexion sur la République est en train de reprendre force et vigueur. Tout simplement parce que, si on regarde l'histoire de la République, on voit la République se constitue pendant la Révolution française. La première République, c'est le 22 septembre 1792. La deuxième République, c'est après la Révolution de 1848. La troisième République, c'est après la Commune de Paris. Et la quatrième République, c'est après le Conseil national de la Résistance. Donc en fait, dans l'histoire de France, en tout cas les quatre premières républiques ont toujours été postérieures en fait à des événements extrêmement importants. Et même la Ve République, d'une certaine façon, elle arrive devant l'incapacité de la Quatrième République de régler une question qui est la question de l'Algérie. Et donc, en fait, il y a bien évidemment le travail théorique sur ce qu'est la République, mais force est de constater, en tout cas en France, c'est qu'elle vient à chaque fois que le modèle précédent s'est écroulé. C'est-à-dire l'ancien régime s'écroule, la Révolution française arrive. Il y a un débat sur par quoi on va remplacer l'ancien régime, et ça aboutit septembre 1792 à l'avènement de la Première République. Bon, pareil, c'est le même processus en 1848, c'est pareil après la Commune, c'est existé. Et puis bon, une des plus grandes crises, c'était la Deuxième Guerre mondiale, le Conseil national de la Résistance, etc. Alors pourquoi aujourd'hui il y a un nouvel intérêt à la réflexion sur la République? Ben, c'est que, je dirais, les politiques qui fonctionnent depuis environ une trentaine d'années, eh bien, disons, montrent leur incapacité, y compris à se régénérer elles-mêmes. On va de crise en crise, vous voyez ce qui est en train de se passer, la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, enfin, disons, même des pays européens, sont dans la tourmente, pour pas dire plus. Et voilà, on sait très bien que la Grèce va faire un défaut partiel au niveau de paiement de sa dette. On sait très bien, par exemple, que les banques françaises vont être touchées par cela. Et donc, etc. Il se démarre, en fait, une réflexion. Et quand il y a une difficulté sur un système qui a tendance à s'écrouler, eh bien, il y a un regain d'intérêt sur le processus de la République. Voilà. C'est, à mon avis, ce qui explique le fait que on en parle de plus en plus. Voilà. Et donc, d'une certaine façon, bon, ma conviction, c'est que on va vers une nouvelle réflexion sur la République. Et aujourd'hui, en tout cas la thèse que je défends, c'est que pour l'instant, dans tout ce qui est alternative au modèle politique actuel, celui qui est le plus cohérent et qui est le plus avancé, ça reste encore le modèle effectivement républicain. Encore faut-il, bien sûr, bien s'entendre sur ce que les mots veulent dire. Parce que vous voyez bien ce qui se passe. En période de crise, les mots sont galvaudés. C'est-à-dire, on confond laïcité et tolérance, alors que ça n'a rien à voir. On confond république et démocratie, alors que ça n'a rien à voir. Voilà, etc., etc. Donc il faut redéfinir, bien sûr, ces mots, et ce sera, disons, un peu l'objet de la soirée de ce soir. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, l'intérêt de la République, c'est que on est dans une phase où le modèle, est en train de s'écrouler. On le voit simplement. Si par exemple je faisais devant vous la conférence sur la crise économique, la crise financière et la crise de la dette publique, je pourrais vous montrer que c'est ces trois crises à la fois, que ce n'est pas qu'une crise financière, que cette crise financière a un substrat qui est en fait la crise de profitabilité du capitalisme lui-même, et donc de petit à petit, il y a de plus en plus d'intellectuels, de militants, de responsables ou même de citoyens éclairés qui se posent la question de penser une république au XXIe siècle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'est-ce qu'une république ? Voilà. C'est ça la première idée. En fait, la république, ce n'est pas un modèle politique, je dirais, prêt à l'emploi. C'est d'ailleurs sa grande force. C'est un modèle politique qui s'adapte à différentes périodes et donc à différentes conditions culturelles, sociales, politiques. Sans rentrer dans une intervention longue sur le plan de l'histoire, vous voyez bien en France que la première république qui a fonctionné pendant quelques années après 1792 n'avait pas grand-chose à voir avec la Troisième République qui a fait les grandes lois sur la laïcité, l'école, etc. Et n'a rigoureusement pas grand-chose à voir avec la Quatrième République qui est arrivée à la Deuxième Guerre mondiale, n'a rien à voir avec la Cinquième. Et que donc, si à un moment donné, il y a une Sixième République dans ce pays, elle n'aura pas les mêmes caractéristiques que les précédentes. Alors en fait, pour comprendre ce qu'est une république, eh bien, une république se constitue autour de quelques ruptures et de quelques principes. En fait, la république, au départ, c'est que ça. Alors, on va prendre, bien sûr, la première république. En fait, on va se placer rapidement au XVIe siècle. Au XVIe siècle, il y a un phénomène très important qui est la Renaissance. C'est l'émergence d'un nouveau pli historique. Et c'est à partir, en fait, de la Renaissance du XVIe siècle que derrière va se constituer, je dirais, le monde moderne. Alors, premier élément du monde moderne, c'est la rupture démocratique. Cette rupture démocratique, elle apparaît pour la première fois en Angleterre au XVIIe siècle. Alors, il faut se replacer à l'époque. L'Angleterre, au XVIIe siècle, c'est la plus grande puissance du monde. C'est voilà. Et donc, c'est la puissance la plus développée, économiquement, intellectuellement, etc. Et donc, première rupture qui fonde la démocratie, je dirais dans le temps moderne, c'est en Angleterre au XVIIe siècle. Le philosophe qui connu, qui sous-tend un peu tout ça, s'appelle Locke. L-O-C-K-E. Voilà. Et il y a une deuxième rupture qui s'établit, qui est la rupture laïque, et qui s'établit en France au XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment de la Révolution française. Alors pourquoi cette rupture laïque se détermine au XVIIIe siècle en France ? C'est tout simplement parce que il y a, je dirais, un modèle qui s'effondre, c'est l'Ancien Régime. Et l'Ancien Régime, le monarque était droit absolu, directement lié effectivement aux structures ecclésiales, et donc c'est en France que s'effectue cette rupture laïque. Et au moment, même si le mot laïcité n'est pas utilisé encore au XVIIIe siècle, mais l'idée de la Révolution française, en fait, de séparer le politique et le religieux, elle est présente dans énormément d'écrits, dans les travaux de l'Assemblée nationale, dans les travaux de la législative, dans les travaux encore plus de la Convention. Et se crée la première République le 22 septembre 1792 parce qu'une majorité de l'Assemblée décide de créer un modèle qui, je dirais, assume ces deux ruptures. C'est-à-dire assume la rupture démocratique et assume la rupture laïque. Et ça donne la Première République. Et donc, établissement du suffrage universel, entendons-nous, suffrage universel que pour les hommes, mais entre le suffrage censitaire qu'il y avait avant, faire un suffrage universel uniquement pour les hommes, c'est déjà une avancée considérable. Et en fait, le monde évolue par ruptures successives. Et donc, ma définition en fait de la République, c'est ça. C'est un certain nombre de ruptures. Donc la première République, c'est le fait d'assumer deux ruptures, la rupture démocratique, la rupture laïque. Comprenons bien qu'on n'assume pas encore la rupture sociale à cette époque-là. Hein ? Et deuxièmement, on applique un certain nombre de principes qui sont les trois principes constitutifs de la République française, liberté, égalité, fraternité. Voilà. Donc, deux ruptures plus trois principes sont la base de cette première République, qui bien évidemment s'adapte à la période en fonction des débats qu'il y a, à l'Assemblée nationale, donc qui va devenir la Convention, etc., etc. Donc voilà. Donc la République, vous voyez, ce n'est pas un système institutionnel précis. D'ailleurs, le système institutionnel de la Première République n'a rien à voir avec les systèmes institutionnels de la Deuxième, de la Troisième, de la Quatrième et de la Cinquième République, et n'aura rien à voir avec celui de la Sixième. Mais il faut bien voir les fondements philosophiques, idéologiques, qui détermine effectivement cette première république. Et pourquoi ça a une forte capacité d'adaptation ? C'est que ces républiques se fondent sur des ruptures et des principes. Et ensuite, il y a un débat dans le souverain, un débat dans les représentants du peuple à cette époque, pour définir quelles sont les institutions qui permettent d'assumer les deux ruptures et d'appliquer les trois principes. Bien évidemment, ça ne dure pas autant que les impôts. C'est-à-dire le fait d'assumer la rupture démocratique et la rupture laïque. Manifestement, ça plaît aux Parisiens, ça plaît aux représentants du peuple, mais c'est pas des choses qui apparaissent aussi simples pour toute la population. Je rappelle qu'il n'y a pas d'école, il y a une majorité de gens qui ne vont pas à l'école, il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire. Enfin, vous voyez qu'à cette époque-là, c'est pas facile pour, je dirais... tout expliquer, parce qu'il y a des gens à qui on peut expliquer que oralement ils ne savent pas lire et écrire. Et donc, il y a une première république qui se crée, et puis un mouvement de reflux qui casse la république. Et on arrive à Napoléon Ier. Si vous regardez l'histoire, les républicains étaient hostiles au système... de l'empereur Napoléon. Hein ? Révolution de 1848, là, il y a, la révolution de 1848, et là, il y a un mécontentement populaire, et là, ceux qui veulent créer la Troisième République, la Deuxième République, ils ont dans la tête non pas le modèle de la République, mais déjà le modèle de la République sociale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce que veulent faire, je dirais, les premiers responsables de cette révolution, c'est d'assumer trois ruptures. Pas deux, mais trois. La rupture démocratique, la rupture laïque et la rupture sociale. Là, ça dure encore moins longtemps que la Première République. Napoléon III arrive, les républicains sont écrasés. Mais malgré ça, le système monté par Napoléon III s'écroule devant la guerre franco-allemande perdue par la France. Ensuite, il y a un mouvement qui a un retentissement très fort qui s'appelle la Commune de Paris. La Commune de Paris voulant assumer ces trois ruptures. Rupture démocratique, rupture laïque, rupture sociale. Là encore... c'est la commune est défaite, mais la bataille continue et la Troisième République se crée. Et là, elle se crée sous la forme de deux ruptures, c'est-à-dire rupture démocratique, rupture laïque. Jean Jaurès, lui, était favorable à la troisième rupture en plus des deux premières. Il a des textes mémorables que vous pouvez retrouver où il dit qu'il faut lier le combat laïque au combat social, ce qui, dit dans ma façon de parler, il ne suffit pas des deux premières ruptures, il faut la troisième qui est la rupture sociale. Et il défend l'idée, Jean Jaurès, qu'il faut... que maintenant la République moderne, c'est une république qui globalise les combats. Sur l'idée des trois ruptures. Démocratique, laïque et sociale. Alors, aujourd'hui, par exemple, je fais partie de ceux qui pensent que le système dans lequel on est, ça ne va pas durer autant que les impôts. Parce qu'il prend l'eau de toutes parts. La crise économique, là, elle est impitoyable. Vous avez vu, là, il y a quelques jours, c'est la banque Dexia, qui est la banque des collectivités locales, qui est tombée. C'est-à-dire faillite. Donc il faut que l'État français et l'État belge se substituent aux capitalistes défaillants. Mais vous savez, il y a d'autres banques françaises qui sont dans des difficultés très grandes. Bon, la BNP, elle a 5 milliards de dettes grecques. Elle a 28,9 milliards de dettes des pays du Sud. Et comme il y a l'opacité bancaire, on ne sait pas combien elle a émis de CDS. Je rappelle que les CDS, ce sont des systèmes de réassurance. Vous savez, les spéculateurs, ce qu'ils font, c'est que ils se réassurent si les États ne les remboursent pas. Le problème, c'est que si un État ne rembourse pas, ben les CDS vont être appelés. On ne sait pas combien il y en a. Personne autour de la table le sait. Le système est un système fou. Bon, probablement le PDG de BNP sait combien, eux, ils ont émis de CDS, mais il ne sait pas combien la Société Générale en a émis et combien... Bon. Donc on est dans un système fou où les choses peuvent se précipiter. Alors, aujourd'hui, si on réfléchit, par exemple, à une alternative, eh ben, on pourrait dire, par exemple, que la République qu'il faudrait faire, faudrait assumer quatre ruptures. Et non pas trois. Assumer la rupture démocratique, assumer la rupture laïque, assumer la rupture sociale, et ajouter la rupture écologique. Parce que il y a quand même un fait nouveau. Par rapport aux réflexions précédentes. Et donc le fait qu'il y ait l'émergence, par exemple, de l'urgence écologique à un moment donné, redonne en fait du tonus au dispositif républicain. Il suffit d'introduire l'idée d'une rupture écologique en plus des autres ruptures. Ce qui fait que aujourd'hui, si on me demande ce que devrait être la République demain, je dirais 4 ruptures et 10 principes. Donc ça veut dire, je prends les 2 ruptures de la Première République, les 3 principes, liberté, égalité, fraternité, auxquels je rajoute 2 ruptures et 7 principes. Voilà. Et donc, bien évidemment, ça c'est mon point de vue personnel. À la limite, chacun d'entre vous peut avoir d'autres points de vue. Bon. Et on peut très bien concevoir différentes républiques possibles en assumant un certain nombre de ruptures et un certain nombre de principes. Voilà. Et c'est vrai que la réflexion qui est la mienne, moi j'essaye de reprendre en fait la réflexion de Jean Jaurès, dans sa généralité, et j'essaye de l'adapter au XXIe siècle. Quand il dit il faut lier le combat laïque au combat social, moi je dis, si pour dire la même chose que lui, je dirais faut lier le combat démocratique, le combat social, le combat laïque, le combat écologique, le combat féministe aujourd'hui. Voilà, que je pourrais... Voilà. Et puis petit à petit, il faut affiner les principes. C'est-à-dire que quand la Première République se crée, et même la Deuxième, il n'y a que trois principes qui sont utilisés, c'est liberté, égalité, fraternité. D'ailleurs, ça devient le triptyque de la République, comme si c'était quelque chose de fixe. Voilà. Moi, je rajouterais aujourd'hui, mais quand je vous fais cette proposition, ça ne veut pas dire que c'est la vérité révélée, ça veut dire que je vous donne l'état de ma réflexion, ce qui n'empêche pas que chacun d'entre vous ou d'autres qui ne sont pas autour de cette table peuvent avoir d'autres principes à y mettre. Moi, je rajoute, bien sûr, la démocratie, la laïcité et le principe de solidarité. Pourquoi le principe de solidarité ? Parce que le principe de solidarité, il apparaît pour la première fois par le Conseil national de la Résistance, à l'intérieur du programme du Conseil national de la Résistance, dans la création de la sécurité sociale. C'est-à-dire les membres, je répète ce que je dis souvent, le Conseil national de la Résistance, il a deux fonctions. Il se crée en 1943, il a une première fonction, c'est d'assurer la résistance et le lien avec les forces alliées. Et la deuxième fonction du Conseil national de la Résistance, c'est de faire un programme, parce qu'en 1943, on est après la bataille de Stalingrad, qui est le tournant de la guerre. L'Allemagne a un double front, puisque il y a, disons, les États-Unis et l'Angleterre d'un côté, l'URSS de l'autre, et puis les résistances dans les différents pays. Et donc, en mai 43, on sait que les Alliés vont gagner. On ne sait pas dans combien de temps, mais on sait qu'ils vont gagner. Et donc, le général de Gaulle, qui est le président du Conseil national de la Résistance, donne comme mandat d'établir un programme du Conseil national de la Résistance. Alors, dans ce programme du Conseil national de la Résistance, vous avez un bloc service public très important, mais vous avez surtout la création de la sécurité sociale comme application du principe de solidarité. Alors, le principe de solidarité a comme définition, à chacun selon ses besoins, chacun doit y contribuer selon ses moyens. Et c'est sous ce principe de la solidarité qu'est créée la sécurité sociale. C'est-à-dire... Devant la maladie, chaque assuré social doit être soigné indépendamment de sa richesse personnelle, indépendamment de son niveau de vie, etc. Et que pour financer la sécurité sociale, eh bien, on fera des prélèvements plus importants à ceux qui ont plus et des prélèvements moins importants à ceux qui ont moins. C'était le principe de solidarité. Donc je pense personnellement qu'il faut rajouter ce principe qui a déjà été utilisé par les membres du Conseil national de la Résistance et que donc c'était un principe intéressant. Alors moi je rajoute à ces six principes quatre autres principes. Je rajoute la sûreté. J'ai pas dit la sécurité. J'ai dit la sûreté. J'ai dit la sûreté parce que c'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dit que chaque citoyen a droit à la sûreté. Alors la sûreté, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire sûreté des biens et des personnes, mais ça veut dire aussi sûreté sociale. Je rajoute également un autre principe qui est le principe d'universalité des droits. Pourquoi je rajoute le principe d'universalité des droits? C'est que je remarque par exemple que toutes les politiques sociales ciblées aboutissent à l'impasse et à l'échec. Voilà. Prenons un exemple récent de politique ciblée, la CMU, la couverture médicale universelle. On dit quoi ? On dit, si vous êtes en dessous d'un certain seuil, vous avez sur un panier de soins la gratuité de vos soins. Mais si vous êtes légèrement au-dessus, vous ne pouvez plus vous soigner. Ce qui fait que depuis que ce grand système est appliqué et qu'il y a encore des partis qui soutiennent ce système, eh bien, le nombre d'assurés sociaux qui font de la renonciation de soins pour cause financière augmente. Aujourd'hui, nous en sommes au chiffre de 29% d'assurés sociaux qui font de la renonciation de soins pour cause financière. Ce sont les dernières. L'IRDES, en 2006, avait le chiffre de 17%. Là, il y a d'autres chiffres qui viennent d'arriver. Bon, suivant la façon de calculer, entre 17 et 29%, c'est considérable. Donc ça veut dire que quand on aide les plus pauvres, et on dit aux autres de se débrouiller, eh bien c'est la catastrophe. Voilà. C'est pour ça qu'au lieu de la CMU, moi je préfère l'accès aux soins partout et pour tous. Voilà. C'est-à-dire de décider que l'accès aux soins, c'est un droit opposable. Et que la prévention et le soin doivent être donnés à chacun indépendamment de ses avoirs, de ses émoluments, de son patrimoine, etc., etc. Donc c'est pour ça que je rajoute le principe de l'universalité des droits. En fait, l'émancipation avance chaque fois qu'il y a un nouveau droit universel. On dit par exemple, voilà, l'accès aux soins pour tous. On dit le droit à l'école pour tous. On dit la contraception et l'IVG pour toutes les femmes, indépendamment de leur salaire, de leur patrimoine, etc. Ça, ce sont des droits universels. C'est pas des droits qu'on donne aux plus pauvres et qu'on donne pas aux autres. Voilà. Donc l'universalité. Le neuvième principe qui appuie celui de la démocratie, c'est la souveraineté populaire. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, ce qui se passe de ces dernières années, c'est que alors qu'il y a eu la rupture démocratique en Angleterre au XVIIe siècle, eh bien aujourd'hui on vit une régression démocratique. C'est-à-dire, quand on demande au peuple de se prononcer sur un référendum, comme le 29 mai 2005, le peuple dit non à 55%, Eh bien, des élites autoproclamées disent, eh bien, nous, on va l'appliquer quand même. Ça veut dire que le choix du peuple n'est plus automatiquement le choix qui est appliqué. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans un système républicain. Voilà. Donc la souveraineté populaire doit être rétablie. Et le dixième principe, c'est le développement écologique et social. C'est-à-dire, si on estime qu'il faut une rupture écologique, eh bien, obligatoirement, il faut promouvoir un développement écologique et social, c'est-à-dire une modification de la façon de produire, une modification de la façon de se comporter, beaucoup de modifications. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, voilà, donc, je vous ai donné une définition de la République. C'est quoi la République ? Ben, la République, c'est à un moment donné d'assumer un certain nombre de ruptures et d'appliquer un certain nombre de principes. Et que bien évidemment, il faut assumer les ruptures qui sont nécessaires par rapport à la situation, et il faut appliquer les principes que les gens ont envie de voir pratiquer. Donc voilà le... Alors, bien évidemment, l'application de ces principes aboutit à ce que ce modèle fonctionne de façon différente de tous les autres modèles. Et je vais prendre un exemple pour montrer la différence qui existe entre une république laïque et sociale et de l'autre côté une démocratie communautaire de type anglo-saxonne. Voilà. Pour montrer que ça fonctionne de façon différente. Alors, je reviens sur les différentes ruptures dont j'ai parlé. Je vais faire avancer mes... Voilà, c'est celle-là. Voilà. Donc, voyez, la rupture démocratique, celle qui a été assumée au XVIIe siècle en Angleterre, mais il y a eu des reculs depuis, c'est celle où il y avait trois marqueurs de l'État totalitaire qui sont remplacés par trois marqueurs de l'État de droit. Alors, premier marqueur de l'État totalitaire, c'est l'hyperconcentration des pouvoirs. Hyperconcentration des pouvoirs, le roi, monarque absolu, a tous les pouvoirs. Voilà. Face à ça, la rupture démocratique fait que dans l'état de droit, l'hyperconcentration des pouvoirs doit être remplacée par la distinction des pouvoirs. Alors vous voyez, quand je dis qu'avant c'était l'hyperconcentration des pouvoirs, on a quelques exemples récents où on a des systèmes ou des personnages en haut de l'État qui tentent de reconcentrer les pouvoirs qu'ils ont perdus. Donc, hyperconcentration des pouvoirs versus distinction des pouvoirs. Dans le marqueur de l'État totalitaire, il y a une appropriation de la souveraineté par une nomenclatura. Le roi, sa cour, la noblesse. Hein. Et dans l'État de droit, c'est remplacé par la circulation de la souveraineté par mandat électif et par compétence. Troisième marqueur de l'État totalitaire, le verrouillage de la liberté d'opinion, le marqueur de l'état de droit qui remplace le verrouillage de la liberté d'opinion, c'est l'espace critique rendu possible par la multiplicité des libertés garanties. Ça veut dire que face au verrouillage de la liberté d'opinion, il faut tout un ensemble de lois qui donnent des libertés garanties. Le passage des trois marqueurs de l'état totalitaire aux trois marqueurs de l'état de droit, c'est commun à notre République et à la démocratie communautaire anglo-saxonne. Si on prend la rupture laïque, bon, là par contre il y a effectivement une différence. Et la différence fait que je vais peut-être faire un petit
dans la démocratie communautaire, donc entre guillemets anglo-saxonne, il y a deux pôles. Il y a deux pôles qui ont un pouvoir. Le premier pôle, c'est l'État. Et le deuxième pôle, c'est la société civile. Et en fait, dans la démocratie anglo-saxonne, il y a un face-à-face entre l'État et la société civile. Ce que j'appelle société civile, c'est l'ensemble de tout ce qui est organisé. C'est-à-dire, dans la société civile, vous avez toutes les organisations, les entreprises, tout ce qui fait la vie, en fait. Toutes les structures collectives d'appartenance, qu'elles soient démocratiques ou pas. Les églises sont dans la société civile, voilà, les entreprises, les banques. Dans une république laïque, alors je dis bien théoriquement, vous avez trois pôles de pouvoir. Et non pas deux. Le premier pôle, c'est l'État. Le deuxième pôle, c'est la société civile. Mais là, il y a un troisième pôle, qui est le corps politique des citoyens. C'est-à-dire que dans une république laïque, il y a trois ensembles qui, entre guillemets, qui se chamaillent pour le pouvoir, mais pas deux. Là, vous avez l'État, dirigé par ses représentants, la société civile, c'est tout ce qui est organisé, économiquement, socialement, etc. Et vous avez le corps politique des citoyens qui est formé uniquement des citoyens. Alors, vous voyez la difficulté, c'est que chacun d'entre nous, si on est dans ce système-là, on est en même temps membre de la société civile, par exemple, si quelqu'un se dit, voilà, moi je suis adhérent à ATTAC, c'est une, l'ATTAC est une organisation de la société civile. Mais en même temps, on peut être un citoyen de la République et donc appartenir. Mais on peut en même temps, si on est, on a des responsabilités dans l'État, en même temps être responsable à l'intérieur de l'appareil d'État. Ça veut dire que ce qui est un peu plus difficile à comprendre, c'est que le même individu, le même être humain, il est en même temps là, là et éventuellement là. Ça veut donc dire que l'être humain qui est en même temps là et là, par exemple, moi je suis un citoyen et je suis membre de l'association des pêcheurs à la ligne de la Basse-Loisère. Ça c'est la société civile. Voilà. Ça veut donc dire, dans ce système-là, que lorsque je m'occupe, je dirais, du bien public, je ne développe des arguments qui ne peuvent être que des arguments répondant à l'intérêt général. Par contre, quand je suis membre de l'association des pêcheurs à la ligne de la Basse-Lozère, quand je suis à l'intérieur, là je ne défends pas l'intérêt général. Je défends l'intérêt des pêcheurs de la Basse-Lozère et donc d'avoir moins de pollution dans la rivière pour qu'ils puissent pêcher, etc., etc. Voilà. Ça veut donc dire que ce système-là est un système qui est, de mon point de vue, supérieur, car il oblige chaque individu à développer dans sa sphère privée, ses propres intérêts particuliers, ses propres croyances. Et quand il travaille dans le corps politique des citoyens, il ne peut pas défendre un argument qui est un argument particulier. Quand vous êtes dans ce système-là, c'est-à-dire le système anglo-saxon, vous avez bien évidemment des votes qui font que, prenez l'Angleterre, les États-Unis, enfin, il y a un suffrage universel. Simplement, ce qui se passe, c'est que des lobbies fonctionnent, et c'est les lobbies de la société civile qui petit à petit contrôlent l'État. Et pour éviter, alors bien évidemment, les lobbies, en fait, émanent de la société civile. L'idée de la République laïque, c'est de dire, nous créons le corps politique des citoyens, et c'est ce corps politique des citoyens qui doit désigner l'État, qui désigne les responsables de l'État. Et ce n'est pas la société civile avec ses lobbies, de toute nature. Et c'est parce que il y a ces trois pôles qu'il y a les lois laïques. C'est-à-dire que, contrairement à un imaginaire répandu, la laïcité, c'est pas intrinsèquement de bouger le curé. C'est-à-dire que les laïcs se sont opposés à l'Église catholique quand l'Église catholique voulait contrôler l'État. C'est-à-dire quand, par exemple, l'Église catholique disait « l'école, c'est moi qui m'en occupe », « le droit du mariage, c'est moi qui le décide », il y a effectivement, là, il y a des conflits. Mais ce qui est important, c'est que quelqu'un qui développe des idées laïques, c'est des idées qui visent à autonomiser le corps politique des citoyens pour désigner les représentants de l'État. Et de dire que la société civile peut fonctionner avec ses organisations, ses croyances, ses dogmes, etc., mais n'a pas à faire rentrer cela ici. Et ça, en fait, toute la... Vous regardez récemment ce qui s'est passé, par exemple, dans ce qu'on a appelé le printemps arabe, ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire... Alors, le printemps arabe, c'est bien sûr un dispositif révolutionnaire contradictoire. Mais à l'intérieur de ce processus, se développe l'idée qu'il y a de plus en plus de citoyens qui ne veulent plus être sous la coupe de certaines organisations de la société civile. Alors, bien sûr, historiquement, dans un pays comme la France, l'organisation de la société civile qui était très forte, c'était l'Église catholique, à une certaine époque. Donc forcément, la laïcité s'est opposée à l'Église catholique. Mais le processus laïque en Suède s'est plutôt opposé à l'Église luthérienne. Et que par exemple, les propositions de loi sur le mariage civil, sur... un état civil public en Israël, c'est plutôt contre la synagogue. Et ceux qui demandent en Algérie l'abrogation du code de la famille, eh bien c'est plutôt contre l'alliance de la direction du pays avec les islamistes. Donc, et on pourrait aujourd'hui élargir ce propos. Si on veut autonomiser le corps politique des citoyens, est-ce qu'il n'y a que éventuellement les églises qui peuvent empêcher le corps politique des citoyens d'agir selon l'intérêt général? Aujourd'hui, il y a des lobbies très puissants qui sont des lobbies financiers, des lobbies économiques et qui émanent de la société civile. Et que donc, en employant le même système, eh bien on peut dire que si on emploie effectivement ce système-là, eh bien l'ensemble des églises, des lobbies, y compris les lobbies économiques et financiers, ont une force à l'intérieur de l'État. Vous voyez par exemple, regardez ce qui se passe aux États-Unis, de façon concrète. Il y a une loi qui a été votée sur la santé par Obama, qui est loin d'ailleurs d'être particulièrement révolutionnaire, quand on regarde dans le détail. Eh bien, pour l'instant, elle ne peut pas être mise en application, parce que, pour aller vite, des lobbies sont à l'intérieur de l'État et empêchent l'ensemble du dispositif. Alors, comment ils font? Aux États-Unis, il y a un pays, il y a en fait une loi qui dit que il ne peut pas y avoir de loi américaine qui puisse contraindre tout le monde. Donc ça veut dire que l'obligation d'avoir une assurance sociale, eh bien, est contestée. Et les lobbies de l'assurance sont en train de pousser chaque État américain, il y en a, je crois, 51.
50.
Il y en a 50, et ils poussent les 50 à attaquer la loi devant la Cour suprême. Et que donc, tant que ce dispositif n'est pas épuisé, la loi ne peut pas fonctionner. Donc en fait, leur idée, elle est simple, c'est qu'ils veulent lancer des procédures judiciaires qui vont durer 15 à 20 ans, et qui, bien sûr, empêchent. Alors là, bon, Obama vient de demander à la Cour suprême de déclarer que toutes ces attaques sont vaines et que on les refusera systématiquement. c'est pas encore gagné, on va voir ce que la Cour suprême va voter. Donc, on a un système comme ça en France. C'est le médicament. Vous prenez le système du médicament. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système-là, il a depuis une trentaine d'années envahi la France. C'est-à-dire ça, c'est des systèmes, entre guillemets, des systèmes purs. Et que ce système-là existe de moins en moins en France, et de plus en plus, c'est celui-là. Alors je vais vous raconter ce qui se passe sur le médicament. Dans le médicament, il y a une règle qui dit qu'un médicament qui est produit par un laboratoire pharmaceutique, à l'intérieur de l'État, il y a ce qu'on appelle une commission AMM. Commission d'autorisation mise sur le marché. C'est-à-dire des hauts fonctionnaires qui doivent fonctionner selon l'intérêt général. Sur un médicament, on doit juger que de l'intérêt vis-à-vis de la santé publique. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça, parce que maintenant, à l'intérieur de toutes les commissions AMM, il y a les représentants des laboratoires pharmaceutiques. Et moi, j'ai un copain qui dirige une commission AMM. Il me dit, ben voilà, il y avait un médicament qui était nocif. Ben, le représentant de l'industrie pharmaceutique a dit, ben, si vous nous empêchez la mise sur le marché, on licencie 300 personnes. Et ce médicament, il est sur le marché. Et donc ça veut dire des médiateurs, il y en aura d'autres. Hein. Voilà. Donc,
il faut bien comprendre que la société civile, elle a comme objectif,
en fait, de contrôler l'État. Et que, bien évidemment, le lobby les plus forts, aujourd'hui, ce sont non pas les lobbies religieux, dans un pays comme la France, mais plutôt des lobbies économiques et financiers.
Voilà. Et que donc, petit à petit, eh bien, c'est la société civile qui contrôle l'État.
Alors, c'est pas vrai partout dans un pays comme la France, mais pour le médicament, c'est tout à fait ça. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on consomme en France beaucoup plus de médicaments qu'aux Pays-Bas, où les gens sont assez bien soignés, quand même. C'est pas un pays sous-développé, les Pays-Bas. Hein, si vous connaissez Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, voilà. Donc,
c'est pour ça que, d'une certaine façon, ce qui détermine, en fait, la République, c'est les fameuses ruptures et les principes dont on a parlé, et que la rupture laïque, c'est en fait la rupture qui permet l'émergence d'un corps politique des citoyens qui doit s'autonomiser par rapport à la société civile. Et plus il y a l'autonomisation du corps politique des citoyens vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de la société civile, et plus on est dans un processus républicain. Alors vous voyez bien qu'avec cette définition, l'utilisation du mot république dans l'acception générale n'a pas grand-chose à voir. Mais enfin, on est habitué, hein, on est habitué à ça, aux mots qui sont galvaudés. Et... Alors, sur le problème des principes, vous voyez, j'ai peut-être été un peu vite, je ne sais pas, hein, sur les différents principes...
Donc voilà, je le disais, la République, c'est un certain nombre de ruptures et un certain nombre de... On assume des ruptures et on applique des principes. Et suivant l'analyse que l'on fait de la société, eh bien, on part justement de ces de ces ruptures assumées et de ces principes, et puis on définit à ce moment-là la Constitution, les institutions et toute l'organisation, sociale et politique. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que on est dans un dispositif où le système devient de moins en moins démocratique, devient de moins en moins laïque, devient de moins en moins social et devient de plus en plus productiviste. Et que de ce point de vue-là, il y en a peut-être encore qui pensent que ce système-là peut perdurer, mais bien évidemment, on voit bien qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont s'opposer à ce système. Je vais prendre un exemple, c'est l'exemple de la santé que je connais bien. Regardez la différence qui s'est passée entre 1995 et la période que nous vivons aujourd'hui. En 1995, il y a eu ce que moi j'ai appelé la contre-réforme régressive de Juppé sur le problème de la santé. Ce qui s'est passé à ce moment-là, par exemple, c'est l'ensemble des médecins hospitaliers a soutenu cette contre-réforme. Quatorze ans plus tard, ce qui est rien, hein, c'est à l'échelle de l'histoire, c'est rien. Après la loi Bachelot, la grande majorité des médecins hospitaliers sont vent debout contre cette loi Bachelot. Mais vent debout. On a même vu, pour ceux qui étaient à la manif comme moi, c'était très marrant de voir Bernard Debré manifester contre le gouvernement alors qu'il est député UMP. Voilà. Bon. Ça a été jusque-là, quoi. Bon. Que, par exemple, dans les hôpitaux de la PHP, la séance publique des hôpitaux de Paris, disons les hôpitaux d'excellence de la région parisienne, eh bien, le mouvement de défense de l'hôpital public a aujourd'hui plus de 1300 médecins hospitaliers qui ont adhéré, dont des centaines de chefs de service, qui sont vent debout contre la réforme. Et tout ça en peu de temps. Ça veut dire que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que de plus en plus des personnes concernées s'opposent à cette logique. Et la logique, c'est pas tel nom, tel président de la République. Parce que si on change de président de la République pour faire la même politique, Non, c'est la logique. Donc, un système qui est de moins en moins démocratique, un système qui est de moins en moins laïque, un système où les droits sociaux diminuent, où le productivisme va... Ben forcément, il y a forcément une réflexion sur quel est le modèle politique qui permet plus de démocratie, qui assume plus de démocratie, plus de laïcité, qui non seulement retrouve les droits sociaux supprimés, mais en augmente, et qui permet d'avoir un développement non productiviste. Bon. Tout ça... Alors, bien sûr... J'en arrive à ma conclusion. Le dispositif républicain, c'est pas un dispositif fermé. Pourquoi les autres systèmes se sont effondrés? Le communisme soviétique, les utopies trotskistes, les utopies tiers-mondistes, etc. Même la social-démocratie. Parce que c'était des systèmes fermés. C'est-à-dire que c'était des systèmes qui étaient prédéterminés. C'est-à-dire qu'on disait, par exemple, ben voilà, il faut l'appropriation collective des moyens de production, il faut que tout appartienne à l'État, par exemple. Hein? Voilà. Tandis que là, on est dans le cadre d'un dispositif républicain qui, comme il ne s'appuie que sur des ruptures assumées et des principes à suivre, reste derrière tout le débat sur l'application. Et que donc, c'est plutôt un système ouvert et qui a permis déjà en France d'avoir 5 républiques qui n'ont en fait pas grand-chose à voir entre elles, parce que bon, il y avait le suffrage universel dans la première, mais il n'y avait que les hommes qui avaient le droit de voter. Donc ça faisait quand même que 48% de la population, des êtres humains qui pouvaient voter. Bon. Et donc, en fait, la seule chose qui est commune, c'est le fait d'assumer des ruptures et d'appliquer des principes. Et que par contre, derrière, bah, plus on se développe, plus il faut appliquer de nouveaux principes, plus il faut assumer des ruptures. Surtout si des ruptures qui ont été faites avant ont plutôt ont été supprimées. Enfin, les avancées ont été supprimées. Voilà. Et donc, c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de réflexion sur quelle république demain. Alors, pour les uns, ils parlent de 6e république, pour d'autres, de nouvelle république, mais je vois de plus en plus d'organisations politiques, syndicales et associatives se référer à cela. Voilà. Et donc, ça ouvre effectivement un débat entre... Et qu'aujourd'hui, je pense que l'opération, elle est plutôt de dire comment les citoyens, comment faire en sorte que les citoyens prennent en charge leur propre destin. Voilà. Comment ils vont assumer ces ruptures, comment ils vont appliquer ces principes. Ce qui fait que, voilà... Il faudrait, à partir d'aujourd'hui, faire des ateliers qui se réunissent souvent pour savoir comment on pourrait construire tout cela. Mais vous voyez, sur la... Je parlerai que d'un seul principe, c'est la démocratie. Parce qu'il y a une idée fausse aujourd'hui. L'idée fausse, c'est mais la démocratie, on est en système démocratique. En fait, nous, on n'est pas en système démocratique. C'est qu'on s'aperçoit petit à petit qu'on n'a prise sur rien. Celui qui est aujourd'hui au chômage, il a prise sur rien. Sur le débat, quelle organisation du travail, quel droit du travail. Il peut tourner les boutons à la télévision, il trouvera pas beaucoup de discours disant... quel droit du travail demain ? Voilà. Et que donc, on est aujourd'hui dans un mouvement comme cela. Et comme j'ai dit qu'il y avait probablement un pli historique qui avait démarré au XVIe siècle et qui avait produit tout ce que j'ai raconté, eh bien peut-être qu'on est à l'aube d'un nouveau pli historique qui permettra des avancées futures. Je vous remercie de votre attention.
Merci à vous. On passe aux questions. Je supposais qu'il y en a à voir. Je vais être juste la distribution. Enfin, je suis garante de la distribution de la parole. Je vous en prie.
Je voudrais juste en préambule vous corriger sur deux points qui sont faux. Hein. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Au XVIIe siècle, la première puissance du monde, c'est nous, c'est la France, c'est pas l'Angleterre. L'Angleterre prendra la succession de la France avec la première révolution industrielle qui interviendra à la fin du XVIIe siècle. D'ailleurs, en histoire, on parle du grand siècle, ou du siècle de Louis XIV, ou du siècle français, y compris dans les livres d'histoire anglais, par exemple. Donc la première puissance, la grande puissance, c'est nous. Le deuxième point qu'il faut, sur lequel je m'insurge, ce sont les termes. Il faut bien faire attention avec les termes employés. Et ça vous donne une indication de celui qui les prononce. Le régime, pour monsieur le communiste, ou enfin de gauche, le communiste, et on le comprend lorsqu'on entend certaines expressions, comme le principe d'universalité des droits. En d'autres termes, c'est un totalitarisme. C'est-à-dire la même chose pour tout le monde. Les Américains, par exemple, ne fonctionnent pas sur ce mode-là. Les Américains ne veulent pas d'une loi pour la sécurité sociale qui s'impose à tous. Ils sont plutôt en faveur de la liberté. La liberté, c'est quoi? Ça veut dire choisir sa sécurité. Ou choisir le comme et sur le pas. Alors, il y a une chose qui est... C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus et qui est totalement fausse, parce que c'est un anachronisme, c'est-à-dire qu'on prend des systèmes, on les balance à travers l'histoire, mais ça n'a aucun sens. Le régime français, enfin d'autres, monarchique, n'est pas un régime totalitaire. Ça n'a aucun sens de dire ça. On n'oppose pas le système monarchique totalitaire, comme on l'a entendu, et le système démocratique. Le régime totalitaire, ça viendra avec la révolution industrielle. C'est vraiment un phénomène contemporain. On ne peut pas parler, pour cette époque, de système totalitaire. Il a été dit à un moment donné que l'Église voulait s'occuper de tout, je ne sais quoi. Je m'en rappelle très exactement. Il faut savoir, par exemple, que pour l'éducation, l'Église s'occupe de l'éducation parce que l'État, en France, ne s'en occupe pas. Ce n'est pas dans les prérogatives. Mais ce n'est pas propre à la France, l'Angleterre est pareil. Même aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas une éducation nationale en Angleterre. L'éducation est décentralisée, les profs sont des personnes sous contrat privé, ce ne sont pas des fonctionnaires. Donc ce n'est pas propre à la France. Il y a une chose qui fait peur quand on dit que la République s'adapte aux conditions du temps, c'est ça qui me fait le plus peur. C'est pour ça que je ne suis pas républicain. Parce que je considère la République comme une prostituée. C'est-à-dire que la République, d'ailleurs elle est représentée par une femme, c'est une putain qui s'adresse aux plus offrants. D'ailleurs, c'est quand même assez curieux, quand on y pense. Dans le mot député, il y avait le mot pute. Et je pense que c'est très parlant. Et ça me fait penser que donc, la République s'adapte aux conditions du temps. Qu'est-ce que ça donnera le jour où la population aura tellement changé? On ne s'y retrouvera plus, qu'il y aura beaucoup plus, que l'islam sera beaucoup plus présent, qu'est-ce que ça donnera? Je pense que tout ce qui est laïcité, etc., ce sera balancé par la fenêtre. D'ailleurs, bon, là, on peut le voir aujourd'hui, mais il faut comparer sur des décennies, il faut voir les avancées sur des décennies. Mais on peut se poser la question de ce que ça donnera dans 20 ou 30 ans. Il n'y a qu'à voir, par exemple ici, rien que l'exemple de Ris-Orangis. La moitié des habitants jeunes ici sont africains ou arabes. Qu'est-ce que ce sera dans 20 ans, 30 ans? On peut se poser la question. Ils n'auront pas le même contenu idéologique ou culturel ou tout ce que vous voulez. C'est un contenu qui est différent du nôtre. Nous, Français, Français, c'est ce que je veux dire. Allez-y.
Alors, je sais pas, mais je pense qu'on a un débat, on a une conférence, mais on ne veut pas une deuxième conférence.
Oui.
Chaque argument doit être débattu.
Oui.
Puisque un débat, je veux dire qu'on n'a pas eu le temps là, il y a tellement une avalanche de. Vous avez dit que ça n'a aucun sens.
Pour ça,
moi je pense que là, ça n'a aucun sens. Je veux dire que, mais je voudrais pouvoir en parler. Mais là, ça ne s'arrête plus. Et on ne peut pas. J'ai oublié tout ce qui a été depuis le début. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on arrête et qu'à chaque fois que vous donnez une contradiction, on puisse en discuter.
C'est une question d'organisation.
C'est comme ça. C'est laisser la parole à tout le monde au fur et à mesure, en fait.
Alors,
non, bon, on est bon.
Qu'est-ce qu'on a dit alors le fait que monsieur soit de gauche, c'est vrai que ça s'entend. Bon, mais c'est son droit. Et le fait que vous soyez de droite, ça s'entend aussi. Bon, ben, c'est pas un argument ni pour ni contre. C'est un argument, c'est tout. Mais
non, c'est pas un argument, c'est une présentation. C'est clarifier les choses.
Eh ben oui,
je vous le dis parce que pour moi, ça n'apparaissait pas. Bon, c'est après, quand j'ai lu par ailleurs. Mais au début, moi, je ne suis pas très. J'étais pas très politisé. Après, bon, quand on fouine, bon, on découvre quelles sont les places des uns et des autres. Mais pour moi, ça n'apparaissait pas.
Alors, moi, j'ai pas l'intelligence suffisante pour me souvenir des arguments. Il y en avait qui n'avaient qu'à faire à Paris dans ce que vous avez dit. Ah, c'est dommage parce que c'est passé depuis longtemps et c'est
Non mais justement, du coup, avant de reprendre d'autres questions, on va peut-être laisser un droit de réponse à notre intervenant, et puis ensuite on prendra, on fera question par question au fur et à mesure. Du coup, ça sera plus simple.
Oui, alors sur plusieurs points. Premièrement, sur le XVIIe siècle. Bon, bien évidemment, ce dont je parle, c'est la fin du XVIIe siècle. Bon, effectivement, bon, c'est peut-être pas le débat central de la période. Mais c'est vrai que la révolution industrielle bat son plein en Angleterre à ce moment-là, alors que le roi Louis XIV fait la révocation de l'édit de Nantes en 1685, ce qui oblige pratiquement la moitié de la bourgeoisie industrielle de l'époque de quitter le territoire national, d'aller d'ailleurs en Angleterre et aux Pays-Bas, enfin ce qu'est aujourd'hui les Pays-Bas. Et que le basculement, effectivement, s'effectue à ce moment-là, donc sur la fin du XVIIe siècle. Alors maintenant, sur le problème de l'universalité, disons-le franchement, oui, moi je fais partie de ceux qui pensent que l'émancipation humaine s'est constituée à chaque fois qu'il y a eu un droit universel supplémentaire à disposition des citoyens. Voilà. Et que le système libéral, qui vise à dire on donne des droits à personne et chacun fait ce qu'il veut, par exemple, je pose la question, est-ce que vous estimez, moi j'estime que l'accès aux soins doit être permise gratuitement à tout le monde. Voilà. Je le dis comme je le pense. L'universalité des droits. Parce qu'on est un être humain. Le fait d'être un être humain fait que l'accès aux soins doit être autorisé et que le financement, il doit s'effectuer, eh bien, par des prélèvements progressifs. Bon. Bien évidemment, on peut très bien être de la position inverse. C'est de dire ceux qui ne peuvent pas se payer l'accès aux soins, c'est tant pis pour eux.
Malheur au vaincu.
Hein ?
Malheur au vaincu.
Malheur au vaincu. C'est une sorte de darwinisme social qui fait que... Parce que le problème n'est pas à savoir de ceux qui veulent payer ou pas. Le problème, c'est que dans l'ensemble des pays, il y a des gens qui ne peuvent pas payer. J'ai pas la conférence sous la main, mais j'ai une conférence où je donne le prix, par exemple, quelqu'un a un cancer, ça coûte tant. Vous voyez tout de suite qu'il y a 20, 30, 40, 50%, même sur le cancer, c'est même la majorité du peuple n'est pas capable de payer. Un instituteur n'est pas capable de se payer les soins pour un cancer, qu'il le veuille ou pas, il n'est pas capable. Voilà. Donc, c'est sûr que ça, c'est une limite. Donc, moi, je dis bien évidemment
que pour moi, le fait de dire tout le monde va à l'école, au début, il y avait que les garçons. La Troisième République, elle dit école primaire pour les filles. Et ainsi de suite. Donc, moi, je pense que sur ce que j'appelle la sphère de constitution des libertés, c'est-à-dire tout ce qui est école, protection sociale, donc santé, retraite, etc. Et puis service public, cette sphère de constitution des libertés doit être fournie à tous les êtres humains sans exception. Et quel que soit leur patrimoine, leur salaire, leur revenu, etc. Bien évidemment, on peut très bien concevoir une conférence en disant ceux qui peuvent pas se payer la santé, eh bien, ils mourront plus tôt. Voilà. Je donne par exemple un exemple en France aujourd'hui. Vous connaissez l'espérance de vie. Bon, il y a des débats là-dessus. Mais disons à peu près 78 ans pour les hommes, 85 ans, 86 ans pour les femmes. Bon, il y a des discussions. Seulement l'espérance de vie d'un SDF sans domicile fixe est 47 ans. Voilà. Bon, la question est de dire, est-ce que c'est normal? Moi, je fais partie de ceux qui disent ce n'est pas normal. Voilà. Alors, autre chose que j'ai entendue et qui me fait sursauter, moi qui suis un fils d'immigré, c'est que j'ai entendu la moitié des habitants de Ris-Orangis sont des Africains et des Arabes. Ce qui veut dire que l'autre moitié serait des Français de souche.
J'ai jamais dit ça.
C'est comme ça que je l'ai compris. Bon. Alors, moi je peux vous dire que il existe probablement à Ris-Orangis beaucoup de personnes d'origine africaine qui sont français. Et beaucoup de personnes d'origine nord-africaine qui sont français. Et beaucoup de fils d'immigrés qui sont français. Moi je suis fils d'immigrés, je suis français. Voilà. Mais fils d'immigrés à 100%, moi, je suis fils d'immigrés. Je suis pas un Français de souche, moi. Voilà. Donc, la question, justement, moi, là-dessus, je vous renvoie... Alors là, la conférence que je fais dans 15 jours, je fais une conférence sur droit de l'immigration et droit de la nationalité. Voilà. Eh bien, je vous propose de reprendre cette discussion à ce moment-là. Mais d'une certaine façon, moi, en tant que républicain, je ne connais que les Français et les étrangers. Après, les origines de chacun, qu'il soit d'origine africaine ou d'origine polonaise comme moi, ou d'origine... Ça ne doit pas rentrer en ligne de compte, je dirais, dans les rapports que nous avons. Alors ensuite, vous dites, on voit dans le conférencier que...
J'ai parlé de ça pour un sujet précis.
Du coup, c'est intéressant parce que voilà, comme le dit Monsieur Tepert, dans deux semaines, on a une conférence exactement là-dessus. Non, mais du coup, ces arguments-là pourront être remis sur...
Maintenant, la question... Sur le problème de la République et de la gauche. Non, c'est très intéressant, ça.
Excusez-moi, oui. Je voudrais juste finir sur cet élément-là. J'ai cité l'exemple de population étrangère. Je ne parle pas de nationalité, hein. Je parle bien de population, d'accord ? Donc, de mentalité. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait que vous soyez noir, jaune. Ce sont les mentalités. Les mentalités qui sont rattachées au peuple, aux différents peuples. Les peuples ont des cultures différentes, ils ont des mentalités différentes.
Écoutez, je vous propose de...
Qu'est-ce que deviendrait la République si la majorité de la population était musulmane?
Eh bien, en l'occurrence, c'est tout à fait justement l'objet de la prochaine conférence qui va être dans 15 jours. Ça va être exactement
dans 15 jours,
ça. C'est la République et l'immigration et l'intégration. Donc
on va en discuter.
C'est quelque chose qui va être tout à fait lié.
Maintenant, République et gauche. Alors, si vous voulez, Il y a une chose qu'il faut quand même voir concrètement, historiquement, comment ça s'est passé. La première république se crée le 22 septembre 1792. Qui c'est qui l'a créé ?
Les francs-maçons.
Attendez, laissez-le finir.
La gauche, c'est la gauche qui est majoritaire. C'est la gauche qui est majoritaire et qui, effectivement, fonde la Première République. Et c'est la Révolution de 48 qui fonde la Deuxième République. Et bon, ce que je veux dire, c'est que les grandes lois, qu'on le veuille ou non, les grandes lois de la Troisième République, ben c'est la gauche qui les fait, je n'y peux rien. Y compris de Jean Jaurès à Jules Ferry, c'est ceux qui siégeaient à gauche à l'Assemblée nationale. Bon, et la Quatrième République, elle se crée par, je dirais, le Conseil national de la Résistance, où le président du Conseil national de la Résistance, c'est De Gaulle, mais la majorité du Conseil national de la Résistance sont de gauche. Voilà. Bon, ce que je veux dire d'une certaine façon, c'est que vous ne pouvez pas, historiquement, faire comme si la République était asexuée. La République, elle a été poussée par la gauche, et ensuite, dans un deuxième temps, en général, les droites l'ont acceptée, et l'ont d'autant plus acceptée qu'elles ont, pendant assez longtemps, pris le pouvoir à l'intérieur de ce dispositif républicain. Mais je pense sincèrement que je n'ai encore jamais vu, ça peut venir, je n'ai jamais vu de dispositif républicain assumant des ruptures, appliquant des principes, organisés par les droites politiques. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ça n'a pas été fait. Voilà. Donc, d'une certaine façon, aujourd'hui, les problèmes de droite-gauche, ben, ça se détermine. Voilà, il y a une droite, il y a une gauche aujourd'hui, etc. Mais pour l'instant, les créations républicaines, disons, sans la gauche, il n'y aurait pas eu ces créations républicaines. Quoi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Au moment de la Révolution française, la droite, c'est ceux qui sont derrière le roi. Voilà. Bon. Et donc, je signale d'ailleurs que la majorité de l'Assemblée nationale va jusqu'à décapiter le roi le 21 janvier 1793. Donc on voit bien jusqu'où va. Je dis pas que c'est bien. Je dis simplement, bon, c'est une réalité historique. On peut pas dire la République, c'est dans les limbes de l'histoire. Et non, je pense qu'il faut dire les choses, les choses comme elles sont aujourd'hui. En règle générale, la République se crée parce que un pouvoir est déclaré illégitime par le peuple. Et étant déclaré illégitime par le peuple, eh bien, c'est les forces du mouvement, les forces, je ne sais pas comment vous les appelez, progressistes, qui vont jusqu'à assumer un dépassement du mode de production précédent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, maintenant, ça ne veut pas dire, dans ce que je viens de dire, que j'assume personnellement tout ce que font ceux qui se disent à gauche aujourd'hui, bien évidemment. Ça, c'est autre chose. Mais je dis que historiquement, c'est effectivement une réalité. Et disons-le franchement, des défenses d'un modèle républicain établi par la droite, j'en vois pas beaucoup aujourd'hui. De conférences.
Je suis très satisfait.
On va juste reprendre maintenant, là, tourner un peu la parole. Il y avait une question là, et ensuite on va prendre Élise, puis on vous laissera un petit peu à répondre.
Oui, moi je voudrais dire, avant d'aborder le thème de la vie, que, bon, il y a une chose à dire quand même, il y a un discours sur le monde des gens qui arrivent de l'immigration, des gens qui n'ont pas la couleur blanche de la peau, que ce discours-là, en particulier en ce moment, aujourd'hui, parce que autour de cette table, il y a des gens qui manifestement ne sont pas des Français de souche, que c'est un discours sur lequel il y a quand même beaucoup de gens en France qui ne sont pas d'accord. Il n'y a pas à vous entendre, là, vous dites qu'il y a une espèce d'étanchéité culturelle entre ceux qui arrivent de l'étranger et des Français, c'est totalement faux. On sait très bien qu'entre les cultures,
vous
il y a... Attendez.
Vous êtes une correction.
Il n'y a pas d'étanchéité entre les cultures, il n'y a pas d'étanchéité entre les gens qui arrivent de la Chine ou qui soient nés en France. Ça a toujours été perméable. Il faut rappeler, par exemple, que Penn, qui a été à l'Assemblée nationale, il n'était pas du tout français. Alors là, par contre, j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus si c'était américain ou britannique. Je crois que c'est Penn qui s'appelait comme ça. Et puis, il y a le fameux dîner, j'ai oublié le nom de l'auteur de ce coup, « Qu'est-ce qu'une nation ?», que je conseille de lire à tout le monde, où il est dit, noir sur blanc, que la question de la nation ne dépendait pas de la nationalité, ne dépendait pas de la couleur de peau, mais dépendait plutôt de l'adhésion à un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes.
Bien sûr.
Voilà. Moi, j'ai bien aimé, dans ce que tu as dit, Bernard, il y a un aspect qui m'a bien plu, c'est que j'ai l'impression que la République n'est pas unidimensionnelle.
Ouais.
Parce que ces principes sont divers, ils peuvent s'agréger les uns aux autres. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça permet d'introduire des éléments qui sont plus riches, me semble-t-il, que les discours qu'on entend, par exemple, à longueur d'année à la radio, à la télévision, sur l'économie, la primauté de l'économie, alors qu'il y a d'autres facteurs qui sont, à mon avis, beaucoup plus importants. Et c'est vrai que la République, telle que tu en as parlé, là, me semble... un modèle intéressant. D'ailleurs, moi, pour avoir travaillé un petit peu sur un homme qui est un peu méconnu maintenant, qui s'appelait Pierre Leroux. Pierre Leroux, en 1848, si la devise liberté, égalité, fraternité est revenue sur le devant de la scène, c'est parce qu'il l'avait exhumée. Et Pierre Leroux, c'était le créateur du socialisme en France. Donc, c'est lui qui a inventé le mot. D'ailleurs, pour la petite histoire, le socialisme à l'époque, dans sa première acception pour lui, était connoté d'une manière très péjorative. Et puis c'est après qu'il a utilisé ce terme-là pour lui avec une valeur positive. Et alors il insistait sur trois choses. Il insistait sur justement le caractère pluridimensionnel justement de l'être humain, avec un modèle de triangle dans lequel il voyait les trois mots liberté, égalité, fraternité, se faisant face les uns les autres, étant des principes à la fois opposés et complémentaires. On conçoit bien que la liberté peut s'opposer la liberté peut s'opposer à l'égalité, et la fraternité, quelque part, peut servir justement à essayer de concilier des tendances contraires. Donc cet aspect-là de la République m'a beaucoup intéressé. Par contre, il y a une question que je me pose depuis un petit moment, et j'en profite qu'on est ensemble pour la poser publiquement. Il y en a beaucoup qui sont posées. Elle est simple, hein. Tu as fait mention des crises, crise écologique, crise politique, crise économique. Alors, comment sommes-nous arrivés là? La question est simple. Parce que, dans le modèle que tu cites au tableau, avec d'un côté le pôle anglo-saxon avec l'État et la société civile, de l'autre côté le modèle républicain où il y a le corps des citoyens, et puis l'État et la société civile, le corps des citoyens dans la... T'as bien fait de dire que c'était quelque chose de... Comment dire, un modèle, hein, quelque part, hein, un modèle idéal. Mais je ne vois pas tellement de différence du point de vue de la crise, si tu veux, entre ce qui se passe en France et en Europe et ce qui se passe aux États-Unis, malgré la différence de modèle. Et comment en sommes-nous arrivés là?
pense qu'effectivement, ça passe par de nouvelles institutions, une nouvelle république. Mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire pour arriver à sortir de vos, à essayer d'avoir quelque chose d'un peu concret.
On peut prendre une deuxième question.
Oui, absolument.
En fait, moi, ça m'intéresserait juste, si possible, en s'écartant plus du débat droite-gauche, mais surtout en s'intéressant plus au niveau plutôt philosophique, au niveau du système politique. Qu'est-ce qui justifierait qu'on introduise une nouvelle république? Quelle étape il faudrait qu'on passe? D'où est-ce que ça pourrait venir? De quelle force ça pourrait venir dans la société? Et jusqu'où il faudrait qu'on arrive pour vraiment que ça devienne une réalité?
Alors, vous avez terminé?
Oui.
Alors, effectivement, moi je fais partie de ceux qui pensent que la République, c'est assumer des ruptures et appliquer des principes. Voilà. On est d'accord sur les ruptures et les principes, et donc, voilà. C'est-à-dire que il n'y a pas d'histoire de couleur de peau, d'origine religieuse ou de tout ça qui compte. C'est-à-dire, et je rappelle au moment de la Révolution française, je le rappellerai dans 15 jours, il suffisait d'adhérer aux principes républicains pour devenir français automatiquement. Et je vous montrerai comment les différentes façons dont on est devenu français, et je dirais dans l'histoire de France. Donc c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que la République est aveugle à la couleur de peau, elle doit être aveugle à toutes les particularités de chaque individu, il ne doit y avoir débat que sur justement les ruptures à assumer et les principes à débattre. Effectivement, sur le problème de liberté et d'égalité, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire le triptyque liberté-égalité, on voit bien qu'il y a des limites. D'ailleurs, il y a une différence. Là, j'ai pas eu le temps, mais prenons un principe, la liberté. Et essayons de travailler philosophiquement pour répondre à votre question. La conception libérale de la liberté, c'est la liberté du renard dans le poulailler. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut. Rien un qui mange l'autre, c'est la vie. C'est-à-dire que il y a une conception libérale de la liberté qui est que c'est le plus fort qui gagne, c'est une sorte de darwinisme social. Pour un républicain, la définition de la liberté est différente. Plus de liberté correspond à une augmentation d'autonomie du citoyen. Plus le citoyen est autonome, plus il est libre. Condorcet disait, un ignorant ne peut pas être libre. Ça veut dire que pour être autonome, eh bien, il faut savoir lire et écrire, il faut avoir acquis un certain nombre de savoirs, il faut être capable de raisonner avec ses savoirs, et il faut être capable de penser par soi-même, et il faut être dans un système où l'autonomie de chaque citoyen est respectée. Et ça veut donc dire que on voit bien d'ailleurs les évolutions sur le problème de la liberté. Chaque fois qu'il y a une liberté nouvelle dans un dispositif républicain, il y a toujours des limites. On va prendre des exemples sur le droit des femmes. Prenez par exemple le droit à la contraception ou le droit à l'IVG. Ce sont des droits qui sont donnés à toutes les femmes, universalité des droits. Mais l'application du droit est légiférée avec des limites. C'est-à-dire qu'on détermine que l'IVG ne peut pas être pratiqué si c'est au-delà de X jours d'aménorrhée. Voilà. On ne dit pas l'IVG est autorisé, vous pouvez pratiquer un IVG à tout moment de la grossesse. Voilà. Bon. Et chaque fois qu'il y a un nouveau droit, il y a des dispositifs. Quand par exemple, je vais prendre des lois laïques par exemple, pour faire la différence entre les laïcs et les ultra-laïcistes. Une liberté ne peut jamais être générale, par principe. C'est-à-dire, ou une restriction de liberté. Par exemple, quand la loi laïque dit il ne peut pas y avoir de signe religieux à l'école publique, cette interdiction, elle est pour l'école publique. Et il n'y a jamais eu, en France, j'allais dire Dieu merci, de loi qui dise les signes religieux sont interdits. Comme ça, partout. Ben non. Parce que c'est considéré pour philosophiquement, si une interdiction est générale, c'est une atteinte aux libertés. Voilà. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que les nouveaux droits, ils ont des limites, et les interdictions, elles sont déterminées dans des espaces et des lieux. C'est-à-dire que, par exemple, il est impossible d'invoquer la laïcité pour empêcher les signes religieux dans la rue. Voilà. Impossible. L'interdiction du voile intégral, c'est-à-dire de la burqa et du niqab, mais pas du hijab. Hein ? Vous connaissez tous la différence ? Hein ? Donc, non ?
Oui.
C'est-à-dire que, en étant laïque, on ne peut pas interdire le hijab dans la rue. Mais on peut l'interdire dans la sphère de constitution des libertés, c'est-à-dire à l'école, à l'hôpital et pour les agents des services publics. Voilà. Donc, une liberté ne peut pas être générale et une interdiction ne peut pas être générale. Voilà. Voilà. Il y a toujours une raison à ça, tout. Voilà. Et s'il y a eu interdiction des signes religieux à l'école, c'est qu'on a estimé que c'était bon pour permettre plus d'autonomie des citoyens en devenir et qu'ils puissent justement être dans un endroit où il n'y a pas de signes religieux et ensuite de sortir dans la rue et de voir qu'il y a des signes religieux. Et qu'ensuite se détermine soi-même, indépendamment. Je vais même plus loin. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que j'ai été le porte-parole de l'interdiction du signe religieux dans les écoles entre 1989 et 2004. Je me suis toujours opposé à l'interdiction des signes religieux à l'université. Certains de mes amis me l'ont reproché. Pourquoi ? Parce que les étudiants sont majeurs. Et qu'on ne peut pas invoquer. Et que moi j'invoque le fait que des enfants sont mineurs, et en étant mineurs, ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Car dès qu'on peut penser par soi-même, la République doit donner le droit de vote. Donc on donne le droit de vote à 18 ans, bah à partir de 18 ans, on doit pas pouvoir interdire cela. Et s'il y a eu une loi en France, en Belgique et maintenant dans plusieurs autres pays sur l'interdiction du voile intégral, c'est absolument pas pour en application du principe de laïcité. C'est en application, en fait, d'un principe d'ordre public qui est que il faut savoir qui est en face de soi pour le vivre ensemble. C'est-à-dire que il n'y a pas de vivre ensemble possible si on ne sait pas qui est-ce qu'il y a derrière. Donc c'est le déni d'identification et d'identité. Voilà. Et le déni d'identification et d'identité justifie l'interdiction du niqab et, c'est-à-dire du voile intégral, niqab et burqa, et qu'il n'y a aucune raison, en tout cas à mes yeux, pour interdire le hijab, étant donné que là, il n'y a pas de problème, on voit très bien qu'il y a la personne, etc. Alors, comment en est-on arrivé là? C'est qu'en fait, j'ai dit tout au début que il fallait, je dirais, pour bien, à mes yeux, hein, pour bien comprendre, il y avait deux conférences qui étaient très liées. La première conférence, c'est celle que j'ai faite devant vous, et la deuxième, c'est celle de la triple crise économique, financière et de la dette publique. C'est-à-dire que je fais partie de ceux qui pensent que il y a en fait des lois économiques qui sur longue période surplombent ce qui est sur le schéma qui est là. Voilà. Ça veut donc dire que moi l'analyse que j'ai, c'est qu'à partir du moment où nous sommes dans un système de globalisation financière, de globalisation néolibérale, bon, et que ce système de globalisation a eu des effets strictement économiques, c'est-à-dire une crise de profitabilité du système économique lui-même, et comme il y avait des problèmes de taux de profit trop bas, eh bien, ceux qui avaient beaucoup d'argent, ils ont inventé cette financiarisation pour pouvoir avoir des taux plus élevés. Et que tout ça a eu une tendance à l'unification de la domination de la sphère financière, et qu'en même temps, il y a eu une tendance à l'unification des systèmes politiques. C'est-à-dire que
si à un moment donné, on était, je ne sais pas, à 50%, un système 50% celui-là et 50% celui-là, le système de globalisation financière a fait que ce modèle-là, petit à petit, s'est appliqué à l'ensemble des pays, y compris la France. Je vous ai parlé du médicament et des commissions AMM qui sont complètement dirigées, qui sont sous influence des lobbies pharmaceutiques. Mais quelle différence il y a dans le fonctionnement des banques françaises avec des banques américaines, allemandes ou anglaises? C'est-à-dire que le système financier s'est totalement internationalisé et donc est en fait sorti du système de l'État-nation. En fait, la globalisation financière, elle a diminué l'impact des États-nations. On le voit bien d'ailleurs avec la construction de l'Union européenne, les traités européens, etc., avec la façon... On peut voir par exemple des écrits sur les banques. C'est-à-dire que
entre 1945 et dans les 20 ans qu'on suivit, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une différence. Il y avait une différence entre le fonctionnement des banques françaises et le fonctionnement des banques américaines. Ça fonctionnait pas de la même façon. Aujourd'hui, l'ensemble du système bancaire mondial fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que les deux modèles politiques qui sont, si je reprends ce que disait madame, ce sont en fait des modèles théoriques, philosophiques. La réalité est en fait un amalgame un peu des deux, quoi. Hein? Bon. Donc, comment on en est arrivé là? Bah, disons que la phase actuelle du capitalisme a diminué la force de l'État-nation, et que bien évidemment, jusqu'ici, ce système fonctionnait dans l'État-nation. Donc, ce système ne peut plus fonctionner, puisque aujourd'hui, près de 80% du droit français est déterminé par l'Union européenne, et qu'une bonne partie des lois qui sont votées par l'Assemblée nationale sont en fait des transpositions de directives européennes. Et donc, à partir de ce moment-là, ce modèle théorique, ça permet de faire des conférences, mais ce n'est plus applicable. Alors, autre chose, je pense que si effectivement ce modèle avait perduré, ça résisterait, à mon avis, mieux aux difficultés actuelles. Et que par contre, ce que je pense, c'est que je pense que ce système avec les trois pôles, ma conviction, c'est que c'est un modèle pour l'avenir. Pas forcément dans l'État-nation tel qu'il est aujourd'hui, peut-être dans des ensembles plus larges, à condition que le système d'alliance entre États-nations se fasse démocratiquement et non pas de la façon où ça a été fait jusqu'ici, c'est-à-dire l'interdiction au peuple de choisir avec qui il s'associerait. Quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là ici? J'arrive plus à me relire.
Je peux reposer.
Oui, c'était votre question. Allez-y.
C'était juste sur le futur, en fait, sur la 6e République.
Oui.
Comment est-ce que vous pensez qu'elle peut naître et
alors,
pourquoi?
Moi, la vision que j'ai, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un modèle qui est un système qui est en difficulté, ou un système qui dont on voit que ça va pas durer autant que les impôts. À ce moment-là, il y a un débat démocratique et un sursaut républicain. On l'a vu 5 fois, 5 républiques en France. Bon. La question, comme ça a été dit tout à l'heure par Didier, c'est qu'en fait, il n'y a pas de république idéale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ni dans ma tête, ni à mon avis dans d'autres têtes, si quelqu'un vous dit, ben moi je sais, la 6e ou la 7e république, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, ça me paraît pas très sérieux. Je pense que, comme je pense l'avoir dit, mais peut-être pas suffisamment, la République, le modèle républicain est un système ouvert. C'est un système qui s'appuie sur des ruptures nécessaires, des principes à appliquer, et même si on est d'accord sur les ruptures et les principes, après, il faut construire la Constitution, les institutions, quelles sont les grandes lois organiques qu'il faut réaliser, Et là, je dirais ça, ça mérite effectivement le débat. Moi, j'en suis pas. Moi, je ne crois pas à des changements profonds sur des idées qui viennent d'un seul cerveau. Voilà. Parce que dans l'histoire, ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. Voilà. Je pense que la question aujourd'hui, c'est que je pense qu'il n'y a pas encore peut-être suffisamment de gens qui sont persuadés qu'il faut revenir à une nouvelle réflexion sur la République et que la République qui va sortir, c'est la République qui sortira de la délibération de l'ensemble des citoyens. Moi, je ne sais pas quelle sera la sixième République. Je trouve qu'il y en a qui savent déjà. Alors, moi, je trouve bien qu'il y ait des gens qui écrivent même des livres en disant, voilà, la sixième République, c'est comme ça, 150 pages, bon. Bah, disons que, pour moi, c'est un système c'est un bouquin que tout le monde devrait lire. Mais il faudrait que d'autres écrivent d'autres livres et puis qu'ensuite chacun puisse dire bah je préfère ça ici, je préfère ça là, enfin, etc. Voilà. Moi ce que je crois, c'est que pour résumer ma position, c'est que l'intérêt pour la République est relancé, je dirais, par le fait que le modèle néolibéral est en train de s'affaisser, disons. Voilà. Et que deuxièmement, la construction d'une république, que ça soit la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, ou même la sixième, voire la septième, eh bien, elle ne se fera que par délibération à un moment donné du peuple. Voilà.
Prenons une dernière question et puis on laissera nous cette évaluation.
Pour prolonger un peu ce que vient de dire Bernard, essayer de répondre à la question comment faire. Je crois qu'actuellement, vraiment dans l'actualité, il y a un peuple qui est en train de vivre. C'est le peuple tunisien qui est en train de préparer le vote d'une constituante pour recréer un nouvel processus politique. Effectivement, ici, ça peut paraître un peu théorique, notre discussion, mais il faut bien voir que les peuples s'en saisissent de ce genre de questions quand la nécessité se présente. Voilà. On a un exemple sous les yeux, c'est pas si fréquent.
23 octobre. Hein, le vote, c'est le 23 octobre.
Combien de partis politiques, 80
et quelques?
Ah, bien sûr. Ça, c'est...
Oui, non, mais... Bien entendu, on est incapable de dire aujourd'hui à quoi ça va déboucher.
Oui.
C'est un processus qui est un processus constituant. C'est intéressant de voir ce qui se passe.
En France, il y a une association pour la constituante qui s'est créée il y a 3 ans. Il y a peut-être d'autres aussi. Celle-là, mais...
C'est la crise qui décidera que ça ne seront pas les
discussions. Il faut les préparer.
En fait, le processus républicain, tout du moins au début, procède toujours du peuple. En fait. Et puis ensuite, bon, il y a des phénomènes qui font que ceux qui ont le pouvoir ont tendance à le garder, à autonomiser le pouvoir par rapport au peuple, enfin, etc. Mais au début, ça procède de ça.
Parce que ça, on ne l'a pas abordé, on peut l'aborder maintenant. La souveraineté populaire, que je défends autant que moi, sinon plus, elle pose un problème parce que quand il s'agit de l'exercer, alors là, ça devient, comme tu disais tout à l'heure, impossible. Quoi. Et moi, j'aime bien toujours rappeler cette phrase de Mounier à la Révolution française. La souveraineté émane du peuple. Mais il importe à sa félicité qu'il ne l'exerce à point. Voilà.
Ça résume parfaitement. Hein?
Et il a rajouté la chose suivante. Il importe que ceux qui n'ont rien ne se mêlent pas des affaires de ceux qui ont quelque chose. Il y a les deux aspects. Alors c'est, et ça, cette question-là de l'exercice de la souveraineté, je crois que ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence.
C'est la devise de la République du Fouquet.
Absolument.
Non, mais...
C'est... Et moi, et alors je finis là, sur, là-dessus. Je comptais t'emmener un petit peu sur ce terrain-là, mais en fait, ça avait été dit autrement quand je parlais de la... Qu'est-ce qui nous amène là? Moi, je pense quand même que quelque part, on en est là parce que justement... La souveraineté populaire ne s'exerce pas. C'est-à-dire que telle qu'elle s'est dessinée jusqu'à maintenant, la vie politique, j'ai l'habitude de dire, elle est faite pour les propriétaires. De la propriété privée. C'est-à-dire que la propriété collective, l'accès à l'eau, l'accès aux soins, tout comme ça, nous échappe totalement. On ne décide jamais de rien, si vous voulez.
Non, mais c'est-à-dire ce que tu dis est très juste. C'est-à-dire que la question, c'est qu'en fait, le processus de développement des républiques font que, à chaque fois, il y a un niveau supérieur, je dirais, en termes de souveraineté. C'est-à-dire que ce qui se passe assez souvent, c'est que, au démarrage de l'opération, la souveraineté populaire s'exerce. Mais, elle est, ceux qui ont le pouvoir la captent. Et petit à petit, c'est pour ça qu'il faut rentrer, je suis assez d'accord avec toi, dans des processus constituants, et il faut que l'expérience de la spoliation de cette souveraineté doit nous entraîner à penser, en fait, à l'intérieur des débats constituants, en fait, à faire en sorte que la souveraineté populaire puisse s'exercer plus longtemps.
Absolument.
Voilà. Parce que, d'une certaine façon, on l'a vu, par exemple, sur les deux premières républiques. La république, la deuxième république, elle a duré quelques mois, sérieusement. Bon. La première république, elle a duré quelques années. Mais disons que, à partir de Thermidor, c'est le début de la fin, quoi. Bon. Donc, ce qui se passe, c'est que, on a vu dans la Première République une souveraineté qui fonctionne quelques années, la Deuxième République quelques mois, la Troisième République, la souveraineté s'est exercée plus longtemps. C'est-à-dire qu'il y a eu là une souveraineté qui s'est établie pendant, allez, plusieurs décennies. Voilà. Bon. Et puis après, ça s'est effondré, quoi. Hein. C'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, l'Union sacrée, etc. Bon, à partir de là, ça s'est totalement effondré. Bon, la Quatrième République qui se crée... par la volonté du Conseil national de la résistance, en fait, la souveraineté populaire fonctionne malgré tout pendant plusieurs décennies. Et puis, pouf, ça s'écroule de nouveau, cette fois-ci, principalement sous les coups de boutoir de la globalisation financière. Ce qui est nouveau, ce qui est un fait nouveau. Donc maintenant, nous avons à penser... Comment établir? Mais je réponds pas, je pose seulement les questions, hein, parce que quand on sait pas donner les réponses, au moins posons les questions, hein. Bon. C'est-à-dire, comment faisons-nous, justement, dans un système qui est encore majoritairement de la globalisation financière, ce qui est quelque chose de nouveau, pour redonner de la souveraineté populaire? Bon, ça, c'est le débat. Il y a des tas de réponses qui sont données. Bon, je viens de finir un livre qui tente de répondre à cette question. Tu me diras ce que t'en penseras quand tu le liras. Bon. Et puis, il faudra faire en sorte d'éviter le fait que la souveraineté populaire soit confisquée, donc, par la globalisation financière, je l'ai déjà dit, mais aussi par l'expertise. Hein, c'est-à-dire par les sachants. qu'elle soit confisquée aussi par le fait que ceux qui ont le pouvoir sont en train de détruire l'école pour que les gens n'acquièrent pas les savoirs nécessaires, que des gens n'arrivent pas à se soigner et que ça crée aussi, etc., etc. Donc, il faut bien évidemment, à chaque moment, à chaque processus constituant, tenir compte des contraintes et de penser comment maintenir la souveraineté populaire. Je pense personnellement, j'ai le sentiment, que plus ça va, plus la souveraineté populaire tient longtemps. Alors j'espère que la prochaine fois, ça tiendra 50 ou 100 ans. Bon, c'est un espoir.
Je vous propose de conclure là-dessus. Merci, monsieur Tepper, pour votre intervention.